Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Le Guay.
Nous avons eu la chance, Émile Poulhac, de faire avec vous une première émission sur ce texte donc de la loi de 1905, tel que vous avez réussi à l'établir. Et nous allons, dans cette seconde émission, essayer de mieux saisir l'esprit de la loi de 1905 et ce qu'elle nous dit aujourd'hui. Donc je rappelle à nos auditeurs que vous êtes donc le spécialiste de la laïcité en France. Vous avez été au CNRS, vous avez enseigné aux études en sciences sociales. Et vous êtes le cofondateur depuis 1954 du groupe de sociologie des religions. Et on avait eu aussi la chance de vous recevoir il y a un an pour un livre d'entretien que vous avez eu avec Daniel Masson et qui s'appelle « France chrétienne, France laïque » publié chez Décle Brouwer en 2008 où vous repreniez donc 50 ans de vos études autour de ce sujet. Voilà, donc nous allons maintenant aborder cette deuxième émission pour scruter dans le détail l'esprit de la loi de 1905. Alors, je voudrais voir dans une deuxième partie, parce que votre livre est divisé de cette manière-là, ce sur quoi nous nous appuyons, c'est-à-dire on considère que la loi de 1905 est le socle de la République et qu'elle définit la laïcité nouvelle telle que nous la connaissons ou telle que nous pensons la connaître depuis 1905. Alors, vous avez précisé, on l'a dit dans la première partie, que dans la loi de 1905, le mot de laïcité n'est pas prononcé, sauf de façon très, très marginale, n'est pas prononcé. Et donc, vous donnez...
D'ailleurs, c'est un mot rare. C'est un mot rare jusque dans les années 80. C'est un mot qu'on ne trouve très, très rarement. D'ailleurs, même entre 1960 et 1980, le mot qui traîne partout, c'est « modernité ». Et vous remarquerez que modernité a disparu des rayons et que maintenant, c'est laïcité qui l'a remplacée.
Pour partie, pour un ensemble de sujets. Voilà. Alors, oui. Donc, je voudrais que vous puissiez, pour éclairer nos auditeurs, définir ce qu'il en est de cette laïcité. Alors, vous donnez trois définitions et j'aimerais que vous nous les expliquiez. Un, vous dites, c'est le régime qui succède à la catholicité. Deux, c'est la liberté publique de conscience qui nous viendrait ou qui nous vient de l'article 10 des droits de l'homme. Et trois, la privatisation du service public des cultes. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner deux, trois éléments de définition rigoureuse, ce qui n'est pas toujours le cas quand on parle de laïcité, de définition rigoureuse des différentes acceptions de cette laïcité qui aurait été fondée en 1905?
Mais écoutez, je crois que vous avez dit l'essentiel.
Je n'ai fait que reprendre vos propos.
Oui, mais vous avez dit l'essentiel et je ne peux que gloser ce que vous avez dit, si vous voulez. Bon, historiquement, si vous voulez, je crois que quand on me dit qu'est-ce que la laïcité, je dis historiquement et de manière structurale, si vous me permettez l'expression, c'est ce qui s'oppose à la catholicité ou plus généralement au régime de chrétienté, ce qu'on disait.
Alors, quel est ce régime donc, de catholicité?
Alors, le régime de chrétienté, oui. Si vous voulez, c'est que c'est un régime qui était d'ailleurs européen. C'est-à-dire que, à partir du XVIe siècle et de la Réforme, le problème s'est posé, si vous voulez, on est sorti du régime antérieur où le christianisme était en quelque sorte religion d'État. Le christianisme est religion d'État, c'est dans la mesure où on peut parler d'État à cette époque, vous voyez. Enfin, c'est-à-dire, c'est la religion des Français, c'est la seule religion dont l'exercice est légal et autorisé par les pouvoirs publics. Alors, le christianisme, sous sa forme orthodoxe en Russie et dans les pays slaves, sous sa forme luthérienne dans les pays nordiques, sous sa forme anglicane, la Church of England, sous sa forme anglicane en Angleterre et en Grande-Bretagne, sous la forme catholique dans les pays méditerranéens, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie et l'Autriche. Et donc, on est dans des pays où seule une seule religion, donc en France la catholicité, mais plus généralement dans toute l'Europe la chrétienté. Et si vous n'êtes pas catholique, vous êtes exclu des charges publiques du service de l'État. Et vous êtes exclu de certains privilèges. Vous êtes considéré comme un sujet de seconde zone. Et il y a eu l'édit de tolérance d'Henri IV, qui a été révoqué par Louis XIV, si vous voulez, et par conséquent, Louis XIV a fait procéder à la destruction de tous les temples protestants. On est véritablement dans le règne en France Alors, il s'est trouvé le cas de l'Allemagne qui était un cas très compliqué puisqu'il y avait la réforme, tantôt pas la réforme. Mais en Allemagne, on a posé un principe qui est souvent mal compris chez nous, c'est « cuius regio, eius religio ». C'est-à-dire un pays à la religion de son prince. Ce qui veut dire que tout prince a le droit de se protestantiser, de passer à la réforme, et que ses sujets doivent le suivre ou s'exiler. Mais ce qu'il faut bien constater, c'est que ce principe ne vaut que pour l'Allemagne. Et la meilleure preuve qu'il ne vaut que pour l'Allemagne, c'est qu'en Angleterre, si un roi se convertissait au catholicisme, il serait déchu. De la même manière, Henri IV, qui était protestant, pour devenir roi de France, a dû se convertir au catholicisme. Donc, ce que j'appelle le régime de laïcité, c'est la fin de ce régime d'un monopole religieux où, à la place, il y a eu le passage de la République. La première séparation a eu lieu en 1794. La République ne reconnaît le salarié aucun culte.
Alors, vous dites quand même, hein, parce que c'est un point, bon, parce qu'on a les trois points, donc on va bien tenir nos trois points de définition de la laïcité. Vous dites quand même, hein, je vous cite, page 214, « Avant 1789, donc dans ce régime de catholicité, chacun savait distinguer les ordres sans confusion. »
Oui.
Et je vous cite, « La société était chrétienne, mais l'État ne gouvernait pas l'Église, et l'Église ne gouvernait pas l'État. »
Oui.
Voilà. Donc, il y avait bien un monopole, mais ce n'est pas pour autant qu'il y avait confusion des pouvoirs.
Exactement.
Voilà, si je vous ai bien lu.
Oui, oui, oui.
Voilà, parce que parfois on dit effectivement qu'à partir de la Révolution française, comme l'État avant était gouverné, dit-on, par l'Église, nous avons eu cette séparation pouvoirs. Alors, vous dites, tel n'était pas le cas.
Ça me semble évident.
Si ça ne l'est pas pour tout le monde, hein, il vaut mieux que ceux qui savent disent bien ce qu'il en est.
De la même manière que quand on dit que la Déclaration des droits de l'homme en 1789 a proclamé la liberté de conscience, moi je dis, attends, c'est vrai.
Alors c'est le deuxième point, venons-y, absolument. Voilà.
Mais ce que la Déclaration des droits de l'homme proclame, en réalité, pour être très précis, c'est la liberté publique de conscience. Car la Déclaration des droits de l'homme vise les droits publics, les libertés publiques de l'individu, les libertés publiques individuelles. La Déclaration des droits de l'homme élargit ce qui était la liberté privée de conscience. Personne n'a jamais contesté, sous l'Ancien Régime, sous la chrétienté, personne n'a jamais contesté aux protestants la liberté privée de conscience. Et il y a une très belle lettre que j'ai citée ailleurs, du roi Louis XIII au connétable de Lesdiguières qui était protestant. Et le roi lui disant « Je respecte votre liberté de conscience ». Mais, comment dire, en sachant que c'est devant Dieu que vous en rendrez compte.
En privé.
Donc en privé. Ceci dit, il fallait respecter ce qu'on appelait l'extérieur de la religion. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette distinction de l'extérieur et de l'intérieur de la religion est une distinction qui a toujours cours. Vous avez une loi de 1904 sur les funérailles. Donc un an avant, je n'en parle pas. Un an avant la loi de 1905. Et je dirais que cette loi sur les funérailles est la première loi de séparation du culte. Parce que la loi de 1904 distingue entre le service extérieur des funérailles et le service intérieur. Le service intérieur, c'est dans l'Église. Le service extérieur, c'est tout ce que l'État peut assurer. Et l'État ne se mêle pas du service intérieur. Et de la même manière, sous l'Ancien Régime, l'intérieur, le privé, c'était l'affaire de chacun. Je ne vous dis pas que le principe était toujours respecté, mais ça, c'est une autre chose. Il y a toujours des infractions au meilleur principe, au meilleur droit. Nous prêchons bien l'égalité en France. Je ne suis pas sûr que notre fidélité au principe ait tiré toutes les conséquences de cette règle.
Donc vous dites la deuxième acception de la laïcité, hein, pour qu'on comprenne bien, c'est effectivement ce principe de liberté publique.
Liberté publique de
publique
conscience.
De conscience, article 10 de la Déclaration des droits de l'homme.
Oui, oui.
Alors, troisième point.
D'ailleurs, quand je dis liberté publique de conscience, la Déclaration des droits de l'homme qui s'attache aux droits individuels ne connaît pas la liberté publique de culte. La liberté publique de culte et la liberté publique de religion ne sont pas un droit de l'homme en France. C'est devenu un droit de l'homme en 1948 avec la Déclaration universelle.
Donc, pour qu'on comprenne bien, cette liberté publique de culte, ça veut dire la possibilité pour d'autres cultes...
De s'exercer,
c'est ça. Voilà.
Alors, en fait, il faudra attendre 1790, un an après la Déclaration des droits de l'homme, pour que les protestants soient autorisés à exercer leur culte publiquement. Et il faudra attendre 1808 pour que les Israélites puissent exercer publiquement leur culte. Oui. Mais ce qui est important à voir, c'est que la liberté publique de culte n'est pas un droit de l'homme au sens français.
Ça veut dire que l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, qui est aussi un des piliers de la République, donc elle autorise la liberté public de conscience, c'est-à-dire pour l'individu, mais quant à la liberté de culte, oui, c'est-à-dire le fait que pour les protestants et ou pour les juifs, sans parler des musulmans mais qui n'existaient pas sur le sol à ce moment-là, pour eux, ce n'est pas considéré comme un droit de l'homme.
Non.
Donc c'est un point qui est précisé effectivement,
oui,
et qu'il importe de bien
prendre en compte.
Alors, troisième point donc, de la définition que vous faites, pour bien comprendre de quoi il est question quand on parle de laïcité, vous dites il y a, c'est comme ça qu'il faut comprendre la loi de 1905, il y a privatisation du service public des cultes.
Voilà.
Alors, expliquez-nous ça.
Mais écoutez, il y a un grand débat aujourd'hui pour savoir sur le service public. Alors, les transports sont considérés comme un service public. La poste est considérée comme un service public. La distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité est considérée comme un service public. Bon, et à l'époque, les cultes, l'exercice du culte était considéré comme un service public.
Donc c'est quoi? C'est une forme de délégation de service public, c'est ça? Enfin, c'est comme ça qu'on peut l'entendre?
C'est un service public, c'est-à-dire que ce service, pour son extérieur et pour ses moyens, comment dire, est garanti et assuré par l'État. Alors, en régime de séparation, la République assure la liberté publique de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes. Mais cet exercice public est un service privé. Alors, c'est très compliqué à manier public-privé, si vous voulez, parce qu'on est devant un service privé, disons, qui jouit, en vertu des libertés publiques, qui jouit de l'exercice public.
Non, parce que votre formule, elle est quand même tout à fait importante. Je la répète, privatisation du service public du culte. Donc, ça veut bien dire que la loi de 1905 reconnaît un service public du culte qui n'est
pas... L'exercice du culte, ouais, cesse d'être un service public tout en demeurant lui-même un exercice public. Et alors, un exercice public, si vous voulez, c'est par exemple quand vous êtes aujourd'hui dans les commerces, dans les grands magasins, l'entrée est libre. Donc, ce sont des lieux publics. Tout le monde peut entrer. Mais ce sont quand même des lieux privés. Alors, remarquez, je dirais que la langue française est une langue effroyablement subtile et je comprends que tout le monde s'y perde ou qu'on ait du mal à s'y retrouver. Mais par exemple, une école publique est un lieu public. Une école privée est un lieu public. Les deux écoles sont des lieux publics. En revanche, un théâtre privé est un lieu privé, mais un théâtre public est aussi un lieu privé, c'est-à-dire l'inverse pour l'école. Alors, c'est difficile de schématiser, de généraliser abstraitement, vous voyez, il faut prendre vraiment cas par cas pour essayer de comprendre la logique.
Non, mais ça veut bien dire
un théâtre, l'école, qu'elle soit publique ou privée, est un lieu public. Un théâtre, qu'il soit public ou privé, est un lieu privé.
Oui.
Mais c'est un fait.
Enfin, je me permets d'insister sur la troisième définition, oui, que vous avez dans ce livre-là, pour une raison particulière, c'est que on dit souvent, et vous épinglez cette expression dans votre livre, on dit souvent que à partir de 1905, la religion est devenue une affaire privée.
Ben, c'est une erreur.
Et vous, vous dites... Pas du tout.
Pas du tout.
C'est une erreur. Alors, expliquez-nous, effectivement, ça nous permet de mieux comprendre cette question de service public.
Alors, affaires privées, service public, c'est que nous ne sommes pas sur le même registre. Si vous voulez, la religion affaires privées, c'est une vieille histoire qui nous vient d'Allemagne et qui nous vient même de l'Ancien Régime, si vous voulez. Mais parce que quand la religion était une affaire publique, tout le monde devait extérieurement se conformer aux exigences de la religion. Et la première revendication, la religion affaires privées, c'était de demander qu'on soit dispensé de cette obligation. C'est fait, mais ça n'est pas pour autant que la religion est transformée en affaire privée. C'est une affaire de conscience, dans cette mesure-là, c'est une affaire de conscience privée, mais elle peut se manifester publiquement. Et une église, est d'abord une église, un temple, sont d'abord des lieux publics, à la différence des chapelles privées. Et la République fait très bien la différence entre les églises et les chapelles paroissiales, qui sont des lieux publics, et les chapelles domestiques, les chapelles familiales, les chapelles de château, qui sont des lieux privés.
Donc vous vous dites, cette expression qui est maintenant une...
Et d'ailleurs, Karl Marx se moquait éperdument en disant que c'était la folie des sociodémocrates qui racontaient des stupidités, car le problème, c'était d'affranchir les consciences.
Alors donc, c'est quand même devenu presque une tarte à la crème,
oui,
de dire que à partir de 1905, la religion est devenue une affaire privée.
Ben oui.
Et vous vous dites,
oui, mais alors,
que nenni.
C'est la même stupidité que quand on dit depuis 1905, l'État ne connaît plus le fait religieux. Alors, vous savez, l'État est sans arrêt aux prises avec le phénomène religieux, sans arrêt.
Alors, pour en rester sur cette partie, donc, affaire privée, vous vous dites, donc ça nous vient d'Allemagne, alors donc, ce n'est plus, vous voyez, pour que nos auditeurs comprennent bien, ça relève de la conscience,
oui,
personnelle, mais...
Et ça relevait déjà de la conscience.
Voilà.
Sauf à se conformer pour l'extérieur.
Mais c'est une affaire, mais on est encore dans ce principe que vous avez indiqué du service public. Il y a bien quelque chose qui est... Voilà, donc il n'y a pas de renvoi.
Non, il n'y a plus de service public, parce que la notion de service public est très précise.
Oui.
Un service public, c'est un service qui est assuré par l'État. Bon, alors aujourd'hui, écoutez, ça n'est plus un service public, mais si je prends le cas des funérailles, c'est extrêmement intéressant, parce parce que les funérailles religieuses, c'est bien un fait religieux. Quand l'État réglemente les funérailles, il est bien obligé de réglementer, de tenir compte des funérailles religieuses. Or, la loi de 1904 prévoit que ce sont les communes qui ont le monopole des funérailles, mais pour le service extérieur. Et il prévoit que quand il y a passage à l'église, donc c'est un surcroît, si vous voulez, la commune ne peut percevoir aucune rétribution supplémentaire. C'est bien la prise en compte du fait religieux, pour ce cas précis, mais je pourrais multiplier les exemples.
Oui, donc effectivement, à partir de ce moment-là, vous vous dites, il faut relativiser, ou il faut bien en revenir au texte de la loi, et je vous lis, vous dites, la loi de 1905 est vide de toute considération spirituelle, voilà, et elle ne résout que des problèmes matériels, financiers et immobiliers.
Exactement.
Non, mais c'est évident pour vous, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Parce que pour tout le monde...
Je suis heureux que grâce à vous, ça devienne...
grâce à vous surtout, qui regardez ça avec rigueur et précision. Donc, alors, pourquoi est-ce qu'effectivement, c'est ça que vous dites, quand on lit la loi de 1905, ce que vous avez fait depuis maintenant plus de 50 ans, il n'y a que des considérations relatives aux problèmes matériels, financiers et immobiliers.
Exactement. Voilà.
Tout le reste, vous considérez que c'est quoi ? C'est de la spéculation ?
Il y a des considérations concernant, disons, à l'appel à la révolution dans les églises, par le sermon du curé. Mais on est toujours dans les problèmes d'exercice du culte. Que vous soyez croyant, croyant, ou que vous croyez ceci, etc. La loi de 1905 n'en parle pas. D'ailleurs, elle ne nomme aucun culte. Il n'est question ni de catholicisme, ni de protestantisme, ni de judaïsme. Et donc, c'est pour ça que la loi de 1905 est parfaitement accueillante à l'islam. Ce qui vaut pour les autres cultes non nommés, vaut pour l'islam qui est non existant à l'époque de la loi.
Et donc, ça vous fait dire, effectivement, que l'État, après et avant 1905, n'est pas devenu plus laïque.
Ben non, exactement. Il était laïque avant, il ne l'est pas devenu davantage.
Alors expliquez-nous ça.
Je dis simplement qu'il est devenu un peu moins sacristain.
Exactement, c'est page 329.
Oui, il est devenu un peu moins sacristain. Voilà. Ben écoutez, je dis un peu sacristain parce que c'était le président de la République qui nommait les évêques en vertu du concordat. Bon, nommer les évêques, je ne sais pas si c'est une tâche républicaine ou laïque. Enfin, ça fait partie de ses fonctions, si vous voulez. Bon, et actuellement, il est le dernier chef d'État qui nomme encore des évêques. Il en nomme deux, si vous voulez. C'est à Strasbourg et à Metz.
Alors là, l'évêque aux armées.
L'évêque aux armées, c'est un cas intéressant parce que c'est le seul cas de double nomination. L'évêque aux armées est nommé par le pape comme évêque et il est nommé comme aumônier général catholique par le ministre de la Défense. Mais c'est une double nomination, alors qu'à Strasbourg et à Metz, il y a une seule nomination.
Voilà, donc ça, c'est l'ancien régime, qui est le régime du Concordat.
C'est le régime du Concordat.
Alors, pour terminer, donc, je renvoie, parce que tous ces points que nous abordons, là, effectivement, sont extrêmement bien détaillés, et avec le survol qui est le vôtre et la concision qui sont la vôtre, dans ce livre-là. Donc, par exemple, vous avez parlé du fait religieux, dans le passage relatif à l'article 1, à partir de la page 151, vous essayez de voir ce qu'il en est du fait religieux et de la prise en compte du fait religieux par les pouvoirs publics. Mais donc, venons-en, si vous voulez, à notre conclusion. Est-ce que, je vais vous poser une question qui va peut-être générer beaucoup de réactions hostiles d'un certain nombre de personnes, faut-il, selon vous, toiletter, changer, modifier, et sur quel point, cette intouchable loi de 1905 ?
Écoutez, moi je dirais, il convient d'intégrer à la loi publiée par le journal officiel le 11 décembre 1905, il convient d'intégrer les 50 modifications que j'ai relevées. Est-ce qu'il est nécessaire, par ailleurs, ce qui m'apparaît possible ou souhaitable, etc., c'est que dans la mesure où il y a des situations nouvelles qui sont apparues, il convient de les régler par des textes spécifiques. Par exemple, tout ce qui concerne la cuisine halal ou la cuisine cachère a été réglé par voie administrative et par des textes spécifiques. Tout ce qui concerne l'abattage rituel a été réglé par des textes spécifiques. La loi de 1905 ne parle pas d'abattage rituel. Et il n'y a pas besoin de modifier la loi de 1905 pour régler le problème de l'abattage rituel. Il y a simplement lieu d'ajouter des textes spécifiques.
Donc vous vous dites, il n'y a pas besoin, il n'y a aucun point de la loi de 1905 qui mériterait d'être modifié, et on peut tout à fait, avec des textes...
Il y en a d'ailleurs, les textes subséquents sont nombreux.
Oui, absolument.
Mais on les ignore de la même manière qu'on ignore les modifications, les 50 modifications intervenues.
Donc tout le reste peut être réglé par des textes séparés sur ces questions.
C'est comme la burqa, par exemple. La burqa ne relève pas de la loi de 1905.
Donc vous vous dites, ne touchons plus à cette loi, et maintenant...
Il y a quand même quelques passages formels, si vous voulez, qui appellent modification. C'est quand il est question de somme d'argent. Par exemple, il y a un plancher ou un plafond de 5000 francs germinal, ça n'a jamais été revalorisé. Aujourd'hui, ça fait 7,05 €, c'est-à-dire que c'est complètement en dehors des réalités. Si vous... Donc, de ce côté-là, il y a effectivement des choses à apprécier.
Ça, c'est la partie du toilettage.
Oui, mais
c'est qui devrait être fait.
Qui devrait être fait, mais comment dire, je dirais, c'est même pas de la toilette, c'est simplement mettre d'accord les textes avec la réalité actuelle. Donc... Mais ça ne peut être fait que par le Parlement.
Mais ceci dit, donc. Mis à part ces éléments-là, qui sont importants, il n'y a pas, selon vous, de modification substantielle à faire de cette fameuse loi des
1905. Écoutez, prenez la loi, vous avez attribution des biens, les biens sont attribués, droit des personnes sont décédées, police générale des cultes, bah écoutez, tout se passe bien. Disposition générale, c'est là où il faut déblayer, parce que les dispositions générales étaient transitoires, circonstancielles, bon, bah alors, tout ce qui concerne le service militaire est aujourd'hui hors de question, vous voyez, on est dans ce domaine-là, mais dans la mesure où ça concernait uniquement des problèmes matériels et financiers, et immobiliers, si vous voulez. Bon, c'est tous des problèmes qui sont réglés. Nous sommes maintenant dans une situation où les problèmes ne se posent plus. Alors, en revanche, il y a peut-être un point qui appellerait réflexion, c'est parce qu'il est d'actualité, c'est le financement de la construction de nouvelles églises, de nouveaux temples ou de mosquées. Ça, c'est un problème. Alors, là-dessus, si vous voulez, on peut prendre de nouvelles dispositions et qui auront un effet rétroactif sur la loi de 1905, mais la solution est extrêmement facile parce que vous avez l'article 2, la République ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte. Ne subventionne. Eh bien, en fait, la République subventionne beaucoup les cultes, mais chaque fois en précisant, ne seront pas considérées comme subventions les sommes allouées pour. Donc actuellement, on peut décider tout ce qu'on veut sans contredire, il suffit de préciser que ça ne sera pas considéré comme une subvention. J'ai l'air subtil, si vous voulez, mais...
Non, mais je renvoie nos auditeurs donc à ce chapitre 6.
Ce qui prouve que le législateur ne manque pas de ressources.
Je renvoie donc nos auditeurs au chapitre 6 de votre livre, donc intitulé « L'article 2, ce que la République reconnaît et finance en matière de religion », où vous faites une liste exhaustive de tout ce que la République française...
Exhaustive, non, j'en ai encore découvert.
Ah, à peu près exhaustive.
Enfin, à peu près exhaustive.
Voilà, surtout ce que, effectivement, la République finance. Quand...
Mais ça n'est pas considéré comme subvention.
Voilà, mais qu'il l'est quand même de fait. Enfin,
ben,
voilà.
C'est de l'argent qui sort. Et comme le mot subvention n'est pas défini, c'est d'autant plus facile de dire que ça n'est pas considéré comme une subvention.
Voilà, ce qui nous laisse à penser qu'effectivement, les États-Unis, par exemple, ont un régime de séparation entre des financements qui est beaucoup plus rigoureux que ce que nous connaissons en France. Voilà, donc de ce point de vue-là, les États-Unis sont beaucoup plus laïcs si on...
Ben, c'est-à-dire que vous évoquez les États-Unis, c'est intéressant parce que nous sommes dans la situation... inverse à celle de la France. Si vous voulez, pour la France, le problème, c'était pour l'État s'affranchir de l'Église. Tandis que aux États-Unis, c'était pour les Églises se préserver de l'État et s'affranchir de l'État. Et d'ailleurs, les colonies anglaises étaient des colonies d'émigrés religieux qui voulaient fuir la religion d'État. Donc, nous sommes dans une situation inverse et c'est ça qui est intéressant à bien comprendre.
Eh bien, écoutez, je renvoie donc tous nos auditeurs pour bien à la fois établir ce qui n'a pas été complètement fait jusqu'à présent, véritablement le texte avec les 50 modifications donc de la loi 1905 à votre ouvrage, donc scruter la loi 1905 chez Fayard. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, qui est tout aussi importante et tout aussi intéressante et qui permet de reprendre 50 ou 60 ans de travaux que vous avez fait sur le sujet, donc des questions, des éléments sur le fait religieux, sur le financement des cultes, etc., enfin, que vous reprenez.
Sur qu'est-ce que c'est qu'un culte
Qu'est-ce que c'est qu'un culte, ce qui est tout à fait complètement incompréhensible pour nous si on ne se replonge pas effectivement dans les subtilités de l'époque, sur les congrégations religieuses, etc., etc. Enfin bon, donc je renvoie donc tous nos éditeurs, et en vous remerciant beaucoup Émile Poulat d'être venu jusqu'à nous, donc à votre dernier ouvrage, Émile Poulat, Scruter la loi de 1905, la République française et la religion, publié chez Fayard. Merci bien.
Merci.